La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec aujourd'hui notre événement du jeudi, je l'appelle comme ça, c'est Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz.
Bonjour David.
Merci d'être avec nous chaque jeudi sur Radio Classique à 8h40.
Merci d'être là,
je David. Je pense que vous souhaitiez réagir sur le départ en retraite anticipé du proviseur du lycée Maurice Ravel, lycée du 20e, où cet homme a eu le malheur, si j'ose dire, d'interdire à une élève...
De faire son travail
et d'appliquer les règles de laïcité voilà. Qui s'imposent dans une enceinte scolaire. Et il a été l'objet de pressions, de menaces, et il a raccroché, comme on dit.
Ouais, on a tous beaucoup de peine. Et puis je crois qu'on a beaucoup de peine aussi pour notre pays. Parce que les mots manquent, mais enfin c'est vraiment abject. On peut dire c'est la honte de la jungle, encore une victoire de l'islamo-gauchisme. Merci Madame Belloubet, la ministre wokiste, vous avez gagné le prix.
Est-ce qu'elle est responsable?
C'est le système, je suis désolé. Ouais. Elle était là pour ça aussi. Elle était là pour jouer une sorte de contre-feu par rapport à Tal. C'est pour ça qu'elle a été placée. Et puis ensuite, merci Daniel Simonet. Faut pas l'oublier, celle-là, députée LFI, qui a pris parti contre le proviseur. Au départ,
on a un Premier ministre, il était ministre de l'Éducation nationale en septembre,
bien sûr.
qui a défrayé la chronique par sa fermeté sur l'interdiction de l'abaya en septembre.
Ah oui,
et puis, 4, 5, 6 mois plus tard, on laisse filer ce proviseur en retraite pour pas faire de vagues.
Je ne pense pas que c'est lui qui a choisi...
Non, mais j'incrimine pas, mais puisque vous dites que c'est systémique.
Oui, mais de toute façon, c'est effectivement pas de vagues. Hein, c'est le film. Le film qui est sorti aujourd'hui.
Le Premier ministre hier à la télévision, Attal parle et Emmanuel Macron est silencieux sur la question des déficits, sur la façon dont on va les combler, sur l'augmentation des impôts. Emmanuel Macron est plus qu'absent.
Ah, c'est fascinant d'ailleurs. Non, parce qu'il parle tout le temps. Il était ces derniers temps, mais tous les jours il y avait un truc. Il parlait, il allait à Marseille, il allait partout, il vous parlait de tous les problèmes. Là, c'est l'angle mort, j'ai toujours dit, c'est l'angle mort. Avec l'immigration, la dette est l'angle mort du macronisme. Y a un souci parce que c'est un des plus grands problèmes qui se posent aujourd'hui à notre pays. Et bon, pour l'instant, il laisse Attal en parler, chercher moyen de récupérer l'argent parce que 5,5% de déficit public, le gouvernement fait semblant d'être surpris par le chiffre, mais enfin, c'est impossible. Même si nos dirigeants, à commencer par Emmanuel Macron aime abreuver les Français d'argent magique, ou se faire passer pour le Père Noël. Le discours gouvernemental depuis quand même plusieurs années, c'est venez les petits, ma hotte est pleine. Hein. Bon, la réalité est simple, on cesse de la répéter ici pratiquement chaque semaine sur cette antenne. La France dépense beaucoup plus qu'elle produit. Et ça ne pouvait pas continuer comme ça. En plus, nous travaillons moins qu'avant, merci les 35 heures, dans le palmarès des pays de l'OCDE, faut toujours le rappeler, n'en déplaise aux économistes LFistes, nous sommes dans le peloton de queue, en heure annuelle travaillée, 1490 heures, juste devant l'Allemagne, qui a une situation particulière avec le travail partiel. On est très loin de la moyenne de l'OCDE, 1716 heures travaillées. Ensuite, notre productivité, elle subit un décrochage. Ça, c'est la Banque de France qui le dit, c'est pas moi. Quant à nos dépenses publiques, elles sont, quand on les rapporte au PIB, les plus élevées des pays de l'OCDE. Regardez, d'après l'INSEE, c'est 57,3% du PIB. Alors vous allez me dire, vous étiez contre le quoi qu'il en coûte. Évidemment que j'étais pour le quoi qu'il en coûte, c'était normal. Simplement, il aurait fallu faire comme un homme d'État. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, voilà, on va aider, parce que l'État, il est là aussi, aider tous ceux qui sont en difficulté.
C'est ce qui a été fait.
Le Covid, il fallait faire, mais simplement après, il faudra rembourser.
Annoncer
la
douleur.
L'argent magique n'existe pas. Donc, il faut pas seulement faire la pédagogie, il faut expliquer aux Français. Là, maintenant, ils ont été abreuvés d'argent magique, et ils croient toujours qu'il y a de l'argent. C'est ça l'histoire. Et la dette qui est passée quand même, faut pas oublier. En 2003, on était à 1000 milliards, on est à 1500 milliards en 2008, et aujourd'hui à plus de 3000 milliards sous Macron. J'ai l'impression que Macron se trouve dans la position inconfortable de la cigale qui a ayant chanté tout l'été, se trouve à fort dépourvu quand la bise est venue, et en fait de bise, vous savez très bien que c'est un risque d'attaque des marchés financiers à un moment donné, pas tout de suite. mais ça viendra. Si on continue comme ça.
La dette sous Pompidou, c'était 15% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, c'est 111%. C'est ce que rappelaient François Geffrier et François Monnier, directeur du magazine.
Oui, mais alors attendez. C'était plus facile sous Pompidou. Sous Giscard, Giscard a subi deux chocs pétroliers. À la fin, la dette, c'était 20%. Hein, du PIB, 20%. Donc, il faut pas jamais oublier Giscard dans cette histoire.
La corde affilée.
On peut pas dire qu'il a mal géré la France.
La corde affilée rapidement. Il y a un mot sur lequel vous souhaitez revenir, c'est la notion de super profit. Parce que la question, c'est, il faut être positif et contributif aujourd'hui. Qui taxer? C'est un peu la question qui ressort de l'entretien de Gabriel Attal hier à la télévision. Est-ce qu'il faut taxer les super profits? Notion qui n'a d'ailleurs pas vraiment de sens, parce que qu'est-ce que c'est qu'un super profit? C'est pas du tout défini en sciences économiques, c'est pas défini dans la fiscalité, c'est pas défini en économie. Un super profit, ça n'est jamais qu'un profit supérieur, bien supérieur à l'année précédente. Est-ce qu'il faut taxer les riches? Est-ce qu'il faut taxer les plus gros salaires, est-ce qu'il faut travailler davantage? Vous nous avez donné une idée à l'instant. Où sont les solutions?
Oh ben c'est très simple. Gabriel Attal a ouvert une voie déjà sur l'assurance chômage.
Ouais.
Il y a de l'argent, il y a de l'emploi. Aujourd'hui en France, on n'est pas dans une mauvaise situation. Effectivement, l'indemnité chômage de 18 mois, ça se conçoit tout à fait dans des périodes de forte chômage. Pas aujourd'hui. Les employeurs ont besoin de trouver des salariés. Donc, le problème, si vous voulez, c'est de parler vrai, de dire les choses. Et je crois que ça devrait être le devoir moral de ce pouvoir. Vous savez, je relisais récemment un chapitre des mémoires de Jacques Foccart, le conseiller de l'ombre du général de Gaulle, où Foccart faisait parler le général en 1967, quand il envisageait déjà de virer Pompidou. Hein, dont vous venez de parler, Pompidou qui trouvait trop mou. Il a pas de couilles, disait de Gaulle. Hein? Ben oui, il parlait comme ça, de Gaulle.
Il a dit ça.
Ben oui, c'est dans le Foccart. C'est dans le Foccart. Et ouais, Foccart, franchement, qui était très copain de Pompidou, ne racontait pas de craques. Hein? Puis en plus, il dictait ses mémoires juste après chaque rendez-vous avec le général. Des mémoires extrêmement longues.
Le général de Gaulle a dit couilles.
Ben, le général de Gaulle a dit de Georges Pompidou, il a pas de couilles. Mmh. Voilà. Bon. Et un homme d'État, et c'est là que je voulais en venir, disait de Gaulle, ça dit non tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et je pense que c'est le moment pour Macron d'être courageux et de savoir dire non, notamment à cette fadaise des super profits. Parce que, vous savez, vous vous souvenez de l'histoire incroyable de la taxe de 75% sur les revenus de plus d'un million d'euros.
François Hollande.
Oui, qui avait vendu ça. Il n'y croyait pas lui-même parce que n'oubliez pas qu'il a fait HEC. Hein, c'est
François Hollande, à l'époque talonné par Jean-Luc Mélenchon,
oui,
qui voulait tout taxer,
voilà.
Et Hollande, dans sa campagne, pour ratisser à gauche, avait été dans la surenchère.
Bon, mais comme il est intelligent, évidemment, il n'y croyait pas. Et évidemment, ça a été une catastrophe, ça n'a pas rapporté d'argent, il a fallu arrêter. Donc là, vous avez maintenant, évidemment, du côté de LFI, c'est normal, c'est leur fonds de commerce, mais également tous les godichons de Renaissance, même le Premier ministre qui, hier, n'ose pas dire la vérité, mais enfin, taxer les super-profits aujourd'hui dans la situation de la France, c'est catastrophique, vous savez pourquoi? Mais on le sait, c'est qu'on va s'attaquer qu'à des multinationales. Je prends l'exemple de celles qui gagnent le plus d'argent, Total Energy, qui génèrent leurs bénéfices, dans le cas de Total Energy, c'est plus de 20 milliards d'euros, c'est énorme effectivement, mais qui génèrent leurs bénéfices à l'étranger et qui les rapatrient en France. Alors qu'est-ce qu'on veut? Qu'elles quittent la France? Qu'elles quittent la France? Bon, si elles veulent quitter la France, il y en a qui diront qu'il faudra mettre des barbelés, il faudra les empêcher. Mais enfin, c'est pas comme ça que
France,
ça marche.
France.
Et vous savez quoi? Non, mais ça, c'est peut-être... Si on approche de la conclusion, je dirais... C'est cette phrase de Michel Audiard, les cons, ça ose tout. Moi, je dirais, les cons, ça n'apprend jamais. Ça n'apprend jamais parce que taxer les super-profits, ce sera contre-productif. Voilà.
Franz, expliquez-moi comment, en fabriquant un mot super-profit, on arrive à créer un débat fiscal pareil, alors que c'est une invention de l'extrême-gauche qui n'a pas son pareil pour inventer des nouveaux mots, pour qualifier des situations et les tirer à son avantage. Prenez le mot génocide. En Israël, vous vouliez revenir dessus. Le mot génocide a créé un clivage, mais il est une construction sémantique de ceux qui combattent farouchement Israël au risque de soutenir le Hamas indirectement.
Voilà, ça c'est tout à fait fascinant. Il y a un personnage extraordinaire en Grande-Bretagne, auteur à succès, néo-conservateur, ouvertement homosexuel, qui s'appelle Douglas Murray. Qui est quelqu'un d'absolument admirable, qui a un courage fou, et il passe sur les plateaux où là, l'antisionisme et l'antisémitisme en Grande-Bretagne, c'est quelque chose, hein, c'est beaucoup plus fort qu'ici en France. Bon, et il lutte verbalement contre la nazification d'Israël, parce que c'est ça aujourd'hui, on assiste à ça. Et alors, il y a quelque chose de très simple qu'il n'arrête pas de répéter, mais si ce que fait Israël à Gaza est un génocide, puisque tout le monde parle de génocide aujourd'hui, dans une grande partie de la classe politique en tout cas, si ce que fait Israël donc à Gaza est un génocide, pourquoi Poutine n'est-il pas accusé par les mêmes de faire un génocide en Ukraine? Non mais vous avez vu les images de Mariupol? Vous avez vu ce qui s'est passé? Et là non, personne, il n'y a même pas de manif.
Mariupol, il y a eu des indignations.
Oui, des indignations, mais Mariupol. Le mot génocide n'a jamais été prononcé. Donc, c'est tout simplement ce que dit Douglas Murray, et je pense qu'on pourrait y réfléchir.
Pourquoi, d'après vous? Pourquoi on utilise ce mot?
C'est la nazification d'Israël, c'est-à-dire, bon, allez, on passe sur la Shoah et on passe à autre chose. Et je dirais, c'est beaucoup plus grave que ça, vous savez, c'est le problème de fond, l'antisionisme et l'antisémitisme, et ça, c'est aveuglant aujourd'hui, puisque on leur dit, retournez là-bas, et qu'est-ce qu'on va leur faire là-bas? Eh ben, on veut les égorger, c'est ça la vraie histoire. Et c'est pour ça que l'idée de séparer les deux, ben oui, tout antisioniste est un antisémite, puisqu'il veut non pas la fin d'Israël, il veut aussi la fin des Juifs, puisqu'il veut qu'ils retournent en Israël. C'est comme ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne, faut dire les choses. Il y a des images, on voit très bien dans les quartiers, les commerçants juifs qui sont, comment dire, un peu harcelés par des malabars islamistes qui essaient de leur faire peur. Ben, pourquoi ils font ça? Ben, c'est pour qu'ils retournent en Israël. On n'en est pas encore là en France. Heureusement, ça tient.
Franz-Olivier Gisbert, on va terminer par une note, si j'ose dire, assez drôle. C'est une loi ou un projet de loi en discussion à l'Assemblée porté par le groupe Liot pour lutter contre les discriminations capillaires. Et je peux vous dire qu'avec votre coiffure déchevelée et en plus vos cheveux blancs, cher ami, vous seriez probablement discriminé. Faut-il une loi pour protéger Gisbert de discrimination à l'emploi?
Non, mais là on touche le fond, je pense, hein. On attend la suite, d'ailleurs. Vous savez que moi, en dehors des cheveux, parce que c'est d'abord, ça commence à devenir un peu clairsemé. Bon, c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était noir et puis abondant. Aujourd'hui, les cheveux, je peux presque les compter. Mais je pense, pourquoi pas, une fois que ça passera, parce qu'il y aura peut-être assez d'imbéciles à l'Assemblée nationale pour voter une loi pareille, pourquoi ne pas faire aussi une loi sur la discrimination par les pieds? Moi, j'ai des petits pieds. Bon, ben, je vais peut-être me sentir discriminé aussi. Pourquoi pas une loi pour moi aussi, pour
les
cliquets.
Ce qui motive cette loi, c'est que des femmes qui se présentent, femmes de couleur, femmes noires, qui ont les cheveux un peu trop crépus ou des coiffures afro, comme on dit, seraient discriminées.
Mais ils sont pas discriminés, c'est formidable, les coiffures afro. Enfin, pour les hommes comme pour les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont pas afro, même des gens célèbres, qui essaient de se faire des cheveux comme ça. Mais enfin, c'est tellement bête.
Il vaut mieux discriminer les gens qui ont les cheveux gras.
Le wokisme, voilà. Vous savez, il donne, comment dire, ça donne une idée de l'infini de la bêtise humaine.
Ce sera le mot de la fin avec vous, Franz. On va se quitter en se disant à la semaine prochaine, évidemment, mais avec Serge Rachmaninov, disparu un 28 mars 1943. Un extrait du concerto pour piano numéro 1. Vous faites l'écrivain, Franz, ce sera pas difficile puisque vous l'êtes. Et moi, je fais Bernard Pivot, ce qui sera beaucoup plus compliqué. À la semaine prochaine.